L'histoire de l'art en devinette.
En ces tristes temps de confinement, rien de mieux que de découvrir ou redécouvrir les œuvres d'art d'une autre manière. Pour Radio Alto, les élèves d'Histoire des Arts de seconde du lycée Berthollet d'Annecy vous proposent quelques cartes postales sonores. À vous de deviner quelle œuvre ou quel artiste, peintre, sculpteur, architecte, se cache derrière ces textes proposés par les élèves. À vous de jouer. Réponse en fin de journée, après le dernier flash d'info, vers 19h30.
Pour présenter au mieux l'architecture classique du XVIIe siècle, j'ai choisi de présenter un château, le château commandité par Nicolas Fouquet, construit entre 1656 et 1661, en Seine-et-Marne, qui sera à l'origine d'une révolution architecturale qui bouleversera l'architecture des bâtiments les plus luxueux du siècle et demi à venir. En effet, en 1653, Nicolas Fouquet, alors surintendant des finances de Louis XIV, fait appel à trois artistes des plus talentueux et reconnus dans leurs domaines respectifs, l'architecte Louis Levaux, le paysagiste Lenôtre et le peintre Charles Lebrun, qui travailleront ensemble, main dans la main, dans un but commun, édifier un château à la hauteur de la réussite de son commanditaire parmi la cour du Roi Soleil. En 1656, Louis XIV est roi depuis maintenant 13 ans et commande le royaume sous l'influence du cardinal Mazarin. 3 ans seulement après la Fronde, révolte de la population contre la monarchie, celle-ci est asservie au pouvoir absolu du roi contre qui elle ne peut rien, et appauvrie aux frais des nombreuses taxes imposées au peuple par l'État, qui participe alors au développement du roi et de sa cour dans le luxe et la démesure. Ainsi, ce château que je vous présente aujourd'hui est représentatif des abus causés par la monarchie sur le peuple. Mincy, petite commune de Seine-et-Marne à quelques kilomètres de Paris, et l'occasion est le lieu idéal pour permettre à la cour de se divertir loin de Paris, dans un château à la pointe de ce qui se faisait de mieux à l'époque, au milieu d'immenses jardins tout aussi splendides construits sur plusieurs kilomètres, dans un style nouveau. L'ensemble du domaine, situé au milieu d'une épaisse forêt, est centré autour d'un axe qui découpe le jardin dans leur longueur sur 4 kilomètres, donnant ainsi un ensemble très symétrique et équilibré comme le veut ce nouveau style. Les jardins sont composés de 3 parties, une première cour en amont du château, puis à partir de celui-ci et jusqu'au petit canot, et enfin les jardins au-delà des petits canaux. Cet ensemble dessiné par André Lenôtre, qui entoure le château, comprend alors des fontaines, des parterres de fleurs et d'eau, parallèles ou perpendiculaires les uns aux autres, des escaliers, ainsi que des sculptures organisées autour du même axe de symétrie qui participent a donné cette impression d'ordre qui deviendra par la suite caractéristique de ce qu'on appellera les jardins à la française. On remarque que plus les décors sont éloignés du château, plus ils sont grands et allongés, notamment les canaux qui sont de plus en plus longs au fur et à mesure qu'ils s'éloignent du château. Ce procédé est utilisé pour contrer l'effet de perspective qui donne l'impression que ces décors sont plus petits vu du château et ainsi donner l'impression qu'ils ont la même taille. Ensuite, au milieu de ces jardins se trouve donc le château, véritable transition architecturale vers un style nouveau. L'édifice prend place au milieu d'une douve, héritée des architectures défensives de l'époque, mais qui est ici purement décorative, et se construit également dans la continuité de l'axe principal qui traverse la demeure. Le rez-de-chaussée ouvre en effet ses portes de part et d'autre du bâtiment, en permettant de voir les jardins au travers du bâtiment, ce qui rend l'ensemble très élégant et donne une impression de légèreté. Cette disposition qui laisse le jardin traverser le château l'intègre harmonieusement dans le décor. L'architecte Louis Levaux s'inspire des proportions et des éléments architecturaux de l'Antiquité, à l'image des colonnes, aux chapiteaux richement décorés, mais également aux frontons et aux acrotères que l'on retrouve sur le toit du bâtiment, qui décore l'extérieur du château de façon symétrique et équilibrée. En effet, celui-ci s'organise autour d'une base rectangulaire entourée de 3 avant-corps qui ressortent de la façade du bâtiment en lui donnant cet aspect ouvert vers les jardins, un plan appelé massé typique de l'époque. De plus, une vaste pièce dite en rotonde, recouverte d'une imposante coupole, qui rappelle l'inspiration de l'architecte dans l'Antiquité, prend place au centre de l'édifice. À l'intérieur, Louis Levaux ne fait pas que superposer les étages les uns aux autres, comme il était coutume de le faire à l'époque, Il juxtapose les pièces à travers deux rangées parallèles, séparées par un couloir. Une telle organisation donne alors naissance aux salons les plus grandioses au rez-de-chaussée, tels que la grande chambre carrée, le salon des muses, le salon ovale, ou encore le cabinet des jeux, aux chambres les plus intimes à l'étage, à l'image des appartements de Fouquet, qui sont alors décorés de multiples tapisseries, tableaux et miroirs. Enfin, l'édifice est recouvert d'un comble brisé. À l'extérieur, parmi les jardins, quatre pavillons se fondent dans le décor, dans une architecture similaire à celle du château, comprenant alors des salles à manger, des salons ainsi que des cuisines. Finalement, ce château et cette architecture typique pour l'époque deviendront par la suite la norme, inspirant ainsi les futurs architectes pour la construction des châteaux aujourd'hui les plus célèbres, notamment celui de Versailles, alors demeure principale du roi Louis XIV.
Carte postale sonore du Maxime. Donc pour cette carte postale sonore, il s'agissait du château de Vaux-le-Vicomte, qui date de 1556-61.
L'histoire de l'art en devinette.